Et ça y est, nous sommes en direct. Alors... Bienvenue au numéro 19 des Voix d'Altaride. Aujourd'hui, on va parler du plaisir du joueur. Mais avant de parler du plaisir du joueur, on va parler un petit peu d'actualité. Et on va parler en particulier d'un grand débat rôliste actuel qui est Donjons et Dragons 5e édition et son passage en OGL, en fait. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce qui vient de se passer au niveau américain ?
Eh ben le 12 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait quoi ? C'était en été 2014. Après un an et demi de Hasbro et de Wizards of the Coast, vous ne passerez pas, il n'y aura pas de traduction de Donjons et Dragons 5. Il y a eu, il y a quelques mois, peut-être novembre ou décembre, on a vu passer l'histoire de... comment ça s'appelle ce truc-là ? Ah ! Le Dungeon Masters Guild.
Tout
vous allez commencer à proposer une licence payante qui allait permettre aux tiers de produire des scénarios et du contenu qui allait se dérouler dans les royaumes oubliés. Donc le truc emblématique, a priori, on n'avait jamais pu faire ça auparavant. Et il y avait un petit mot aussi qui précisait que l'OGL allait certainement être vu en rapport avec ça. Et donc il devait y avoir une petite conférence, je crois, vers le 15 janvier. Et le 12 janvier, la version OGL, la nouvelle version, le nouvel OGL quelque part, donc l'Open Game License, ce truc qui était né dans les années 2000, après que Wizard ait racheté TSR et ainsi de suite, et qu'on a eu la troisième édition de Donjon, vous me corrigez, hein, je ne suis pas un spécialiste.
Hein. Ouais, non, c'est pas mal. Hein.
Et du coup, en fait, cette fois-ci, alors que nous avions en fait les règles, on va dire qu'elles apparaissaient sous trois formes, en VO, le starter set qu'on avait eu de 32
fait.
Pages de règles avec l'essentiel des prêts tirés et de quoi les monter sur 5 niveaux avec les 75 pages de campagne, de mini-campagne qu'il y avait derrière. Après, on avait bien évidemment les Basic Rules, donc la version disponible gratos de 110 pages à peu près en anglais. Et enfin, bien évidemment, hein, pour les vrais, les purs, il y avait le triptyque en PDF ou en papier. C'est peut-être pas en PDF d'ailleurs. Ça existe peut-être que en papier.
Que en papier.
Ouais, je pense que vient de l'avoir vu en PDF. Enfin, pas officiellement en tout cas.
C'est ça. Voilà. Je pense que c'est ce dernier point qui est important de préciser. Pas officiellement. Et la différence, c'était le nombre de classes, puisque là on avait les 12 classes avec à peu près 3 archétypes par classe, les 9 races, tous les backgrounds, etc. Alors que les Basic Rules, eux, se concentraient vraiment sur l'essentiel. Donc les 4 classes classiques, hein, guerrier, mage, voleur, prêtre, ou clair, je ne sais plus où on est dans ces histoires-là. Et les races emblématiques, donc l'humain, l'elfe, le nain et le hobbit. Enfin, le Halfling. Et le SRD, donc la nouvelle version en fait disponible gratos en ligne et que tout le monde a le droit d'utiliser, on est passé de 110 pages à, que je dise pas de bêtises, à 398.
Donc, mais étonnamment, il y avait des trucs qui étaient dans le basique qu'on ne retrouve pas dans le SRD. Quoi.
Ah, qu'est-ce qui a disparu ?
Alors, c'est, faudrait aller sur le site EDD, il y a Blue Ace qui en parle.
Ah oui, ils ont spécifié ce qui avait disparu.
Voilà, et ils disent, en fait, ça ne matche pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont... Par exemple, dans le basique, si tu veux, dans le SRD, tu n'as qu'un seul, un seul background qui est sorti, oui. Alors que dans le basique, tu en as plusieurs. Tu en as au moins 4 ou 5.
Oui, il y en avait 5, oui. Mm.
Ouais, mais le basique, c'est la mise à disposition des règles pour pouvoir jouer avec, alors que le SRD, c'est pour les réutiliser pour vos propres produits aussi.
Bah ouais, mais c'est compliqué, tu vois, la frontière entre ces deux trucs-là, c'est...
Je vous interromps déjà pour permettre à la foule assemblée d'applaudir Callisto, que je vous présente. Bonjour Callisto.
Bonjour. Oh,
magnifique, n'est-ce pas ? Standing Ovation. Et non, moi je m'amuse avec ma soundboard. Hein. Et pour saluer aussi Xavier qui est avec nous.
Bonjour.
Nous avons aussi avec nous d'autres invités ce soir. Entendrons-nous leur voix ou attendront-ils d'avoir des choses à dire ? Est-ce que tu es là, Antoine ?
Je suis là. Salut tout le monde.
Salut. Et Sean ?
Ouais, je suis là.
Formidable. Coucou. Bien. Alors, nous pouvons reprendre. Donc, on a, si je résume, 3 documents. trois documents disponibles pour les joueurs de Donjons & Dragons en anglais. Premier document, les Basic Rules, qui remplissent le minimum du minimum pour pouvoir voir ce que c'est que Donjons & Dragons. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?
Autant le starter set, je dirais, sa version très réduite permettait vraiment juste de se faire une idée, autant le Basic Rules, a priori, contient quand même énormément de races, de classes, de sorts, etc. C'est pas complet, mais tu dois pouvoir jouer un paquet de temps quand même rien qu'avec ça.
Mais il me semblait qu'il y avait essentiellement les classes de base, c'est-à-dire que
oui, t'avais... Comme dit, les classes de base, les races de base.
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Okay.
Il n'y aura pas de Dragon Board, Bard.
Voilà, c'est ça. Alors qu'on a ensuite le SRD, deuxième document gratuit et qui est à disposition des éditeurs qui voudraient s'en emparer pour... ou des éditeurs ou des auteurs d'ailleurs, hein, qui voudraient s'en emparer pour produire leur propre jeu avec les règles de Donjons & Dragons 5e édition. Voilà. Qui contient l'ensemble des classes, l'ensemble des races, mais avec la petite exception qui est une seule option parmi toutes les options qui sont normalement disponibles dans ce cas-là.
Voilà, un seul archétype, par exemple, le voleur n'aura peut-être pas, il peut être normalement assassin, monte en l'air ou mage voleur, il n'y aura qu'une seule des options qui sera disponible dans le SRD, enfin voilà. qui est disponible.
Très peu d'historique, de background, etc. Mais à disposition beaucoup d'objets magiques, beaucoup de sorts et pas mal de monstres. Ouais. Voilà.
Alors que ça, on ne l'a pas dans le basique. Dans le basique, tu n'as pas 3 tonnes d'objets magiques, de sorts et de machins.
Voilà, donc c'est vraiment.
C'est ça qui fait des pages aussi. Hein.
Dans le basique, si, tu avais des sorts et les 4 classes, mais tu n'avais pas un bestiaire énorme, tu n'avais pas les objets magiques.
J'ai l'impression
que. Pourtant, ce n'est pas non plus la version complète. Il manque quand même des choses. À la limite, c'est plus pour ça qu'on pourrait se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont lourdé tel sort de ranger de bas niveau qui était efficace? Pourquoi tel monstre apparaît pas vu qu'il y en a 90%
Alors, quelque chose... si je prends l'exemple sur le SRD de la version 3, 3.5, etc. de Donjon, globalement, ce qu'ils ont viré, c'est ce qui est leur propriété intellectuelle exclusive. D'accord. Et sur lequel ils ont, par exemple, dans l'ancien SRD, tous les sorts qui portaient les noms des personnages, Bigby, Mordenkainen, voire le flagellant mental Lilithid, etc., tous ces trucs-là étaient virés du SRD parce que ça leur appartenait en propre. En tout cas, ils réclamaient l'appartenance en propre. Et le troisième document qu'on a, c'est évidemment la version des règles publiée par Wizards of the Coast en anglais exclusivement et a priori qui ne sera pas traduite.
Voilà, et qui sera le seul document qui aura le droit de s'appeler Donjons & Dragons, puisque Donjons & Dragons, le titre n'est pas dans le SRD. Mais comme d'autres choses, on n'a pas non plus. Les règles de création ne sont pas non plus dans le bouquin.
Les règles de création ne sont pas dans le bouquin.
Et puis, je crois qu'aussi l'explication d'un peu de comment marche le combat, si je ne dis pas de bêtises, ça n'y est pas non plus.
D'accord, donc c'est intéressant.
Il manque du lien, en fait. On a les bases. Donc quelqu'un qui connaît, c'est un petit peu comme si, si quelqu'un nous refourguait des livrets et les principes d'un jeu propulsé par l'apocalypse. Si tu sais comment ça marche à peu près dans les grandes lignes, tu dois pouvoir te débrouiller. Maintenant, si on te file ça dans les pattes et que tu... au fait, comment je fais pour tirer les caracs?
Ouais, si t'as que les livrets et les moves et que tu connais Apocalypse World, tu t'en sors. Sinon, c'est quand même vraiment, vraiment compliqué, quoi.
Ah, mais c'est un peu inquiétant, ça, parce que ça veut dire que le système de création n'est pas censé être repris ailleurs.
Eh ben moi, je me pose la question justement de qu'est-ce qui va être mis, dans quelle mesure on peut, dans quelle mesure Wizard va s'amuser à aller vérifier ce qui a été produit par les gens, mais dans quelle mesure ils peuvent se faire difficile de se dire ah non, tu n'as pas le droit de créer ton truc avec 3D de 6.
Après, c'est compliqué parce que je crois qu'il n'y a pas de copyright sur des systèmes de jeu.
Non, il n'y en a pas, ouais, effectivement.
Ah oui, c'est le problème du copyright sur le jeu tout court, ça, on en a déjà.
Et du coup. Tu vois, c'est chichiteux tout ça, quoi.
Absolument.
Bon, du coup, là, on ne va pas à l'essentiel. Hein,
attends, je finis mon résumé, parce qu'on a encore un point à préciser que tu as évoqué tout à l'heure, qui est le Dungeon Masters Guild, qui est donc la possibilité pour n'importe qui d'utiliser l'intégralité de la licence Donjons & Dragons dans les Royaumes Oubliés, et uniquement dans les Royaumes Oubliés, en tout cas pour le moment, pour produire scénarios, compléments de règles, les bouquins qu'on veut, avec comme seule, il y a plusieurs choses, mais disons comme seule condition, contrainte. De les publier sur le DM's Guild, qui est donc un site spécialisé, qui est fait entre le fameux Drive-Thru RPG, dont on a déjà pas mal parlé, qui vend du PDF de jeux de rôle en ligne, et du Print on Demand maintenant d'ailleurs, donc de l'impression à la demande, et Wizard of the Coast. La condition étant que vous récupérez 50% des bénéfices que génère votre produit, et évidemment, Wizard of the Coast, donc Hasbro, et DraftThrough RPG, donc One Bookshelf, se récupère le reste. Donc les 50%. Voilà. C'est aussi très intéressant de ce point de vue-là, d'ailleurs, hein, parce que j'ai entendu pas mal de commentaires à ce sujet. On en parle assez peu dans la sphère française du DM's Guild pour l'instant. En tout cas, de ce que j'ai entendu, vous me confirmerez ou me détromperez. Mais c'est intéressant parce que cette licence globale qui est autorisée dans ces conditions-là... Alors, premièrement, on ne sait pas à qui appartient le produit final. Est-ce qu'il appartient à Wizards of the Coast ou est-ce qu'il vous appartient ? Premier problème. Et mes deuxième point très intéressant, c'est que s'il y a du print on demand et qu'il y a des suppléments qui finissent par être imprimés, bah vous continuez à toucher du fric dessus. Voilà, voilà. Alors, le principal, la tempête dans le verre d'eau, ce qui agite la sphère release ces derniers jours, c'est la traduction de ce jeu-là. Alors, qui veut nous en parler de cette fameuse traduction ? Parce qu'on a une traduction en crowdfunding sur Ulule, une traduction en crowdfunding sur la plateforme Casus Belli, Black Book Edition, qui maintenant s'appelle Casus Belli. Et il y a aussi la traduction engagée, gratuite, sur EdDD, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, parce qu'on a oublié de parler de ces braves gens, ces sympathiques compagnons, et EdDD, qui eux,
le basique, ils l'ont traduit.
Et ils le mettent à disposition en PDF avec un bouquin de monstres, un bouquin de règles. Voilà.
Et qu'est-ce que ça
vaut ? Je crois même qu'il y a un zozo qui a foutu sur, comment ça s'appelle, Lulu, la possibilité de se le print on demand en plus.
Ça je savais pas. Et qu'est-ce que ça vaut ?
Ça c'est à confirmer, hein. C'est des bruits de couloir que j'ai cru entendre, mais j'ai pas été regardé moi-même, quoi.
Écoute Xavier, la rumeur c'est une mauvaise idée. Mais bon,
c'est ce qui fait la course de chevaux, voyons.
Évidemment. Soyons pratiques. Qu'est-ce qu'elle vaut leur traduction à EdDD ? Parce que moi je me souviens au début quand je l'avais un petit peu parcouru, mais alors c'est vraiment au début de la traduction. Honnêtement, ça avait juste le mérite d'être traduit en français et de pas avoir utilisé Google Trad. C'était quand même c'était pas très bon, quoi.
Allez, moi je les soupçonne dans les débuts d'avoir utilisé Google Trad, par contre. Pour le plus gros, quoi. Après,
Est-ce que la communauté EdDD est active et a pu corriger un certain nombre de ces documents, ou est-ce qu'ils ont gardé leur premier jet ?
Alors moi, je suis régulièrement le forum EdDD, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les gens qui sont dessus, et je les salue d'ailleurs. Je sais qu'il y a des grandes polémiques sur comment traduire ça, est-ce qu'on devrait traduire comme ceci, est-ce qu'on devrait traduire comme ça, comme cela. Est-ce que ça a un impact sur les traductions ? Bah, je m'en rends pas trop compte, parce que moi j'ai la bonne idée de lire couramment l'anglais, et donc je regarde de très très loin seulement ce qui s'est fait en français, quoi.
Ok.
Mais je sais qu'ils en discutent sur le forum, il y a des polémiques à n'en plus finir sur comment est-ce qu'on traduit Cudgel, par exemple, est-ce que c'est la massue ou le gourdin, enfin bon, tu as des trucs comme ça rigolos, hein. Alors ça amuse les puristes, je sais pas si ça amuse le grand public, mais...
Oui, ça c'est le fait que c'est de la traduction communautaire, donc ce qui pose forcément le problème du lexique. Et hop, petit lien rapide, puisque justement, le principe c'est que BBE utilise le même lexique, qui se mettent d'accord avec EdDD, quoi. Donc il y a un lien entre l'existant et le futur. Et ce lien, on peut même dire qu'il va aller plus loin, puisque donc on a deux compagnies. En fait,
on peut peut-être commencer par présenter ce qu'ils nous proposent, ces chers.
Alors d'un côté, on va avoir Héros et Dragons chez Black Book.
Oui.
Et de l'autre côté, on va avoir Dragon tout court. Chez Agathe, mais bien qu'ils aient quand même un infime espoir d'arriver à obtenir la traduction intégrale complète avec le nom. Bon, ils auraient une carte dans leur manche, mais même si, bon, voilà, on est dans le domaine de l'espoir, hein, on n'est pas dans le domaine du très réaliste d'arriver à obtenir d'Hasbro les droits complets, quoi.
Alors, ils ont un avantage, Agathe, quand même. Ils ont un avantage, je ne sais pas du tout si ça aura un quelconque impact, hein. Ce n'est pas du tout mon propos là, mais ils ont l'avantage de commencer à être vraiment implantés sur le marché américain, grâce notamment aux Ombres d'Esteren. Ils sont présents la Gen Con tous les ans, et ils commencent à bien se faire connaître. Et j'ai entendu en fait mentionner Esteren sur plusieurs podcasts américains, si tu veux. Donc ça commence à avoir un petit succès d'estime.
Tu veux dire qu'il pourrait avoir une crédibilité auprès de Wizards of the Coast s'il est sollicité pour...
Ouais, il y a de ça. Alors que BBE a peut-être un pouvoir économique un peu plus important. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je suis pas dans le secret de leur compte, donc je peux pas vraiment le voir. Mais j'ai l'impression que c'est un éditeur quand même de plus grande importance que Agathe, hein, sans jugement de valeur autre qu'économique. Donc là, ça fait un argument supplémentaire. Et le deuxième argument, c'est il me semble qu'il y a un certain nombre de produits Black Book qui sont en train d'être traduits et qu'eux ont l'avantage de déjà traduire pas mal de licences.
Oui.
Le problème, c'est qu'ils portent Pathfinder.
Et oui. Chroniques oubliées, et ils ont encore du D20.
Ouais. Non, mais je te parle du point de vue potentiellement de Wizard of the Coast, quoi.
Ouais.
Est-ce que tu filerais la licence Donjons et Dragons à quelqu'un qui te traduit Pathfinder? Je sais pas. Bon, bref, c'est peut-être un argument spécieux qui a aucun intérêt. Hein. Le dernier point que je voulais aborder là-dessus, c'est que il me semble, alors est-ce que c'est toi qui me l'avais dit, Calisto, je ne sais plus, que les Espagnols ont prévu de le traduire gratuitement aussi, ce SRD.
C'est le rôle dans les premiers jets qu'on avait vus, effectivement, était parti pour. Alors, je vais essayer d'aller nous trouver ça au passage.
Écoute, on verra. Donc voilà.
La vraie question, c'est qu'on sait pas trop ce qu'ils vont nous faire en fait dans ces crowdfunding.
Oui, parce que alors qu'est-ce qu'ils nous proposent de base
Alors, comme on le sait, le droit, c'est de traduire le SRD. Le SRD, il est pas complet. Donc deux optiques, ou tu traduis le SRD, donc t'as pas un jeu complet, ou tu dois faire rajouter des choses. BBE, eux, visiblement, ils avaient déjà commencé à bosser un petit peu comme ça tranquillement, et du coup, ils auraient déjà un tiers du SRD traduit. Bon, en même temps, un tiers du SRD, on a dit c'est 400 pages, donc ça fait 130 pages qui seraient traduites, ou quelque chose comme ça. Ça ressemble méchamment au Basic Rules, quoi.
Oui,
absolument. Voilà, donc... Et comme en plus, visiblement, ils veulent tisser des passerelles avec EDD, donc pour se mettre d'accord sur un peu un espèce de lexique commun pour la traduction. Bon. Leur offre, dès le départ, ils vont dire on va nous rajouter de notre contenu, et je crois qu'ils ont parlé de doubler le contenu. Ne m'écharpez pas hein, si je me trompe, mais si je me suis trompé, parce que je lis aussi des choses et pas que spécialement ce qui se dit sur BBE. Et donc, théoriquement, dans leur offre, en fait, le prix est plus élevé que chez Agathe, mais eux, ils annonçaient directement contenu doublé avec des produits faits par la team Casus, BBE et compagnie. Quoi.
Voilà. Bah écoute, là, j'ai une de leurs news qu'ils ont publiée quand ils ont passé les 100 000 euros de financement, parce que c'est quand même pas négligeable. De toute façon, ça va fonctionner. Donc finalement, on peut dire ce qu'on veut, parce que ça va fonctionner. Donc,
De toute façon, les deux sont déjà financés. Donc,
voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le SRD est un document de référence système. Il est uniquement technique et fonctionnel, et ce sera le... Attends, où est-ce qu'ils disent ça? Ce sera le squelette de leur bouquin du joueur, en fait. Voilà ce qu'ils nous annoncent. Pour Black
Book. Alors, ils vont faire un marquage visuel pour qu'on puisse identifier ce qui est SRD, donc ce qui est le vrai, quoi, et ce qui est rajout de leur équipe. Par opposition, du côté de chez Agathe, eux, ils sont partis sur une base du « au début », il n'y aura que la traduction du SRD. Et c'est seulement en fonction des paliers que vous allez débloquer qu'on va rajouter du contenu, des exemples, des textes d'ambiance, des machins comme ça, sur ce squelette de SRD.
D'accord. Je crois aussi que dans l'offre BBE, il y a aussi une grosse campagne qui est comprise, il me semble.
Ah oui. Et d'ailleurs, en fait, si on détaille un petit peu l'offre BBE, en fait, dans plein d'options, on a des choses qui sont des produits Chroniques oubliées.
D'accord.
Parce que comme Chroniques oubliées, donc encore un autre système d'Edvin simplifié qui avait initialement été publié dans Casus Belli, puis sorti en hors-série, et qui a eu un dernier crowdfunding l'an dernier sur la campagne Anatazerine. Je me demande même si j'avais pas vu dans les options de donjon, là, on pouvait commander la campagne Anatazerine de Chroniques oubliées, qui n'a rien à voir, quoi.
Bref,
tu peux faire un peu ton marché. Et là, par exemple, si on regarde, on voit qu'on va avoir 178 participants à cette heure-ci, sur BBE.
D'accord.
Mais dedans, 165 personnes ont pris la campagne en version, uniquement la campagne, en dur et en PDF, mais pour Chroniques oubliées.
D'accord.
Je me dis que ces gens-là vont peut-être pas racheter et la repayer en version DD.
Voilà,
il n'y en a que 20 qui ont été prises en version DD dans les configurations
équivalentes. Si on fait les scores, on est à 578 participants sur BBE, 103 584 au moment où on enregistre. Nul doute que ça va monter parce qu'on est vraiment encore au début. Chez Agathe,
il y a eu des effets aussi
Early Birds.
Ouais.
Il y avait une date limite
fixée très tôt, donc les gens sont dû un peu aussi se jeter dessus pour avoir.
Oui, c'est possible. De toute façon, on n'a pas d'experts de crowdfunding avec nous, mais traditionnellement, il y a un gros démarrage, une longue période creuse et un final assez important.
Finish, ouais.
Donc là, on entre dans la partie un peu plus lente où ça va monter doucement. Peut-être que ça montera beaucoup plus vite à la fin.
La surprise, c'est que là où ça monte plus, pour le moment, c'est chez Agathe.
Bah, Agathe, ils en sont quand même à 38 753 euros.
Ouais.
Par contre, je n'ai pas le nombre de participants
500,
sur Ulule.
500 participants.
D'accord. Oui, 502 contributeurs, exact.
Ouais. Alors, or, si on passe de l'autre côté avec nos 518 participants chez BBE, mais qu'on enlève ceux qui ont l'air d'avoir fait de la commande Chroniques oubliées, on redescend à 400.
Bah, moi, ce que je vois surtout, c'est que chez BBE, les gens qui souscrivent chez BBE ont nettement plus de fric, parce que 578 pour 103 000 euros, 500 pour 38 000 euros, quoi. En même temps, les offres ne sont pas du même niveau. Bon, on va pas peut-être trop détailler leurs offres, ça, nos auditeurs intéressés
n'hésiteront
pas à aller les voir. Ouais, je t'en prie.
C'est qu'au début, ils ont fait une offre très intéressante, je trouve, ça. C'est l'offre, le manuel du joueur de poche. Au début, c'était pas une option. Après, ils l'ont mis en option. Et du coup, des gens se sont mis à l'acheter directement, à prendre le palier à 15 euros. Qui du coup est raisonnable, pour avoir le SRD en format de poche à un prix raisonnable.
Ouais.
Et je pense
ce qui est vraiment intéressant, quoi, avoir la quintessence des règles en format de poche à trimballer partout, là, ça vaut le coup, quoi. Pour 15 euros, c'est raisonnable.
Même si tu joues à une table qui joue en DD, VO, pure et compagnie, tu auras quand même une bonne partie des sorts, une bonne partie des classes, etc. Et si tu es anglophobe, ou si tu as des joueurs anglophobes, tu auras quand même un sacré avantage déjà à avoir ce petit truc-là sur un coin de la table. Quoi.
Ah, carrément. Maintenant, je vais vous dire, comme je disais, on va peut-être pas trop détailler leurs offres. On n'est pas là pour leur faire de la pub particulièrement. Et on va peut-être commencer à parler un peu de ce qui fâche. Moi, je vais me lancer. Ça me navre, cette situation. Ça me navre. Oui, il est important, à mon avis, que Donjons et Dragons arrive en français un jour ou l'autre. Ça, c'est évident, parce que c'est un peu le jeu de rôle emblématique que tout le monde connaît, et c'est important d'avoir la possibilité de l'avoir en français, que ce soit fait par un éditeur, ou que ce soit fait par n'importe qui, ou par EDD, ou par autre chose. À la rigueur, par un gros éditeur, que ce soit Agathe ou BBE, ils sont très bons des deux côtés pour faire des bouquins qui sont magnifiques et qui vont attirer du monde. Donc ça, c'est une chose. En revanche, ce qui me fout un peu hors de moi, c'est d'abord mon cœur de joueurs qui s'expriment quand je vois qu'ils prétendent dans leur communication « Voici les règles de Donjons et Dragons 5 en français ».
Bien sûr.
C'est pas vrai. Règles de Donjons et Dragons 5. Qui nous disent « Nous vous proposons un jeu basé sur les règles de Donjons, qui n'est pas Donjons ». Hein, c'est de l'OGL, quoi. C'est comme la grande OGL de l'époque où il y avait à boire et à manger. Ça a généré des univers, des campagnes, des règles qui étaient des suppléments qui étaient exceptionnels, comme des suppléments de merde. Mais ça ne faisait pas partie de la gamme officielle de Donjons et Dragons. Qu'on ne nous fasse pas croire que ça fait partie de la gamme officielle. Bon, ça, c'est un petit peu mon côté collectionneur-joueur qui se révolte.
Chacun des deux avait mis, le plus ancien. Voilà, la traduction du plus ancien des jeux de rôle, et l'autre, ça peut être la traduction du plus grand des jeux de rôle, quoi.
Oui, c'est ça. Donjons et Dragons arrive en français, quoi. Le plus vieux... Non, ils disent pas Donjons et Dragons. Ils disent le plus vieux jeu de rôle arrive en français, machin. Non, mais attendez, arrêtez de vous foutre de notre gueule, quoi. Clairement. Maintenant, j'ai aucune animosité pour eux, et je ne suis pas en train de dénigrer le travail qu'ils vont fournir. Hein. C'est pas du tout l'idée.
Ensuite, que ce travail de traduction, après coup, les deux, de toute façon, s'étaient engagés à dire le SRD, quand on l'aura traduit, on le mettra à dispo gratos.
Oui, bah, très bien, c'est
parfait. De toute façon, c'est même devenu, si j'ai bien compris, qu'au final, il ne va pas y avoir deux équipes de traduction, il va y en avoir seulement une qui va bosser, celle de BBE, et au final, Agathe va même utiliser ce même SRD.
Et va apporter de la valeur ajoutée avec sa mise en page, ses illustrations.
Partie, et donc va payer en partie avec cet argent les gens de BBE. en théorie, hein, je dis bien. Et théoriquement, cet argent qui ne sera pas utilisé pour la traduction par Agathe va être utilisé pour débloquer d'autres choses.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que je vois aussi sur Agathe. Comme le contenu initial n'était pas clairement défini, enfin si, c'est juste, il y a le SRD, pour avoir plus, faut débloquer des paliers. Ben, en fait, les gens, je pense, sont peut-être un peu plus motivés par les paliers pour avoir leur version jeu complète. En ayant peut-être aussi, comme il y a un peu des votes, manifestement, pour savoir, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on fait le guide du maître ou le manuel des monstres ? Ça donne peut-être l'impression au public d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui va être ajouté.
Ouais, c'est possible, c'est possible. Moi, j'aurais tendance à dire...
Tout pour un prix, au final, moins élevé.
Ouais. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous ne lisez pas du tout l'anglais, allez voir le Basic Rules traduit par EDD, regardez si le jeu vous plaît. Si vous pensez que vous allez y jouer, eh bien, vous avez deux choix. Soit vous êtes un collectionneur et vous allez avoir envie d'avoir vos trois bouquins produits soit par BBE si vous êtes riche, soit par Agathe si vous êtes un petit peu moins riche ou un petit peu moins collectionneur, et vous aurez vos bouquins. Si vous n'êtes pas collectionneur, bah, attendez d'avoir accès à la totalité du SRD. L'autre solution, c'est si la version Agathe ou la version BBE vous plaît par la valeur ajoutée qu'elle apporte. Mmh. Mais bon, honnêtement, moi, je ne l'achèterai pas et je ne conseillerais probablement à personne de l'acheter parce que, à mon avis, c'est un peu inutile. Mais c'est mon côté snob, lecteur d'anglais, qui se manifeste.
Non, mais je suis pareil sur ce truc-là. Les gens me demandent des fois, bah, alors, tu faudrait prendre lequel ? Bah, aucun.
Voilà, enfin, c'est...
la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on nous prévend un truc, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Le SRD, c'est bien joli, mais...
Ouais, mais enfin, c'est pas une prévente, Xavier. C'est pas une prévente, un crowdfunding, normalement. Là, maintenant, ça devient...
Mais pour beaucoup de monde, maintenant, ça le devient.
Les grands éditeurs
le disent. Ça fait partie de leur campagne de com et de pub.
Bah voilà, bah, donc il faut le prendre tel quel. On est en train de se faire prendre une grosse campagne de pub dans la gueule. On a deux éditeurs qui s'affrontent sur le sujet, qui ont bien raison... parce que c'est leur rôle hein, de publier ce genre de choses. Je pense qu'ils vont apporter quelque chose d'intéressant. C'est dommage de ne pas avoir eu c'est dommage d'essayer chacun de se faire passer pour la traduction de Donjon. Voilà, ça c'est vraiment dommage.
Oui, ils auraient dû assumer, dire voilà, nous on veut vous faire du maître fan sur la base des règles de DD5. Au passage, on vous traduit le SRD gratos et communiquer réellement sur ce qu'ils veulent faire et pas essayer de raccrocher les wagons sur le SRD en profitant de la superbe de DD5.
D'autant plus que. Bon, j'ai vu des objections de la part des éditeurs qui sont notamment de BBE. J'ai lu des messages tout à l'heure sur Facebook qui disaient, qui répondaient de manière relativement sensée. Mais faut bien voir une chose, c'est des éditeurs qui publient des jeux, qui ont plusieurs gammes en cours, qui ont fait des crowdfunding, donc qui ont de la trésorerie, qui ont pu financer des choses qui n'étaient pas sûres d'avoir du succès par ce biais-là. Mais putain, là, enfin, excusez-moi du langage, mais Donjons et Dragons, quoi. Même un dérivé. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un crowdfunding en dehors d'une campagne de pub ? Bah non. Bah du coup, qu'est-ce que
c'est ? Est-ce qu'il y a besoin d'un crowdfunding pour financer la septième édition de l'Appel de Cthulhu ?
On est parfaitement d'accord. Le crowdfunding de Cthulhu, il a un avantage, entre guillemets, qui n'est pas un avantage pour les rôlistes, hein, c'est que le fait de l'avoir fait en crowdfunding, ça a attiré une myriade de non-rôlistes collectionneurs de Cthulhu. Voilà. Donc ça, c'est cool. Bon, maintenant, il faut voir aussi autre chose. On nous dit, et notamment Agathe nous dit, oui, ça va motiver, on en parlait tout à l'heure, hein, ça va motiver Wizard of the Coast, Hasbro, à donner la licence. Mais enfin, excusez-moi, 1000 personnes 1000 personnes, c'est rien du tout, quoi.
Ouais.
C'est rien du tout, quoi. Bon, ok, soyons honnêtes. Par rapport à notre nombre d'auditeurs actuels, combien sont-ils ? Je vais vous dire ça. On a un spectateur qui nous est annoncé par... Bravo à lui, merci. Par Google Hangouts. Ok, bon, bah voilà, un spectateur, très bien. Par rapport à ça, c'est beaucoup 1000. Mais par rapport au marché américain là-dessus, sachant que la plupart des pays rôlistes utilisent l'anglais, bon, moi, je suis consterné. Je dis ça sans aucune haine pour les gens qui travaillent chez Agathe et les gens qui travaillent chez BBE. Je ne dis ça sans aucune intention de dénigrer leur travail. Je ne prends pas les éditeurs non plus pour des types avec des gros cigares qui payent leur piscine avec le jeu de rôle, parce qu'on sait bien que ce n'est pas le cas. Mais J'ai l'impression que le crowdfunding qui était censé au départ permettre à des projets rôlistes peu financés de voir le jour, c'est fini, quoi. Voilà, c'est fini. Le crowdfunding, c'est notre nouvelle boutique, quoi.
Cela dit, si je peux faire mon vieux gaucho de base, moi, ce que je trouve intéressant dans le crowdfunding, à part certains dérapages, voilà, hein, dont tu viens de parler,
c'est que... Cthulhu avec la campagne.
Bah, excusez-moi, c'est... mais les dépipés de Papy Donjon, voilà, quoi.
Non, bon, ouais, voilà. C'est au point de vue de, comment dire, du modèle économique. C'est-à-dire qu'avec le crowdfunding, on est sur une base de, on ne passe pas par le crédit.
Ah oui. Donc,
on ne passe pas par la création d'argent dette pour financer quelque chose. C'est super bien.
Oui, ouais, bien sûr. Problème... Mais pourquoi faire du crowdfunding ? Faites-nous une souscription, faites une prévente, faites les choses correctement. Ok, il y a le côté ludique qui se met dedans, mais...
On appelle ça comme on veut. Il se trouve que c'est l'effet de mode, c'est à l'américaine, on appelle ça du crowdfunding. Mais moi, je trouve ça pas mal qu'on ne soit pas obligé d'aller voir les banques pour chercher du pognon et payer des intérêts derrière pour financer un truc, quoi. Ça, sur le fond, c'est mon côté anticapitaliste qui parle et je suis très content.
Absolument.
Le vrai problème du crowdfunding aujourd'hui, c'est que la législation, il n'y a pas de législation encore. Tu vois, on t'oblige, enfin, je veux dire, personne n'oblige le mec qui fait un crowdfunding à livrer ce qu'il a prévu de livrer. Quand toi t'es livré, si ça te plaît pas, est-ce que tu peux faire un retour à l'envoyeur en disant, finalement, j'exerce mon droit de rétractation, le truc que vous m'avez proposé me convient pas, remboursez-moi.
Oui, il y a même un autre point que tu n'abordes pas, Xavier. Les boutiques de jeux de rôle, enfin les boutiques en général, prennent une marge de 35%. Les distributeurs rajoutent une marge de 15%. Ce qui fait que l'éditeur, quand il vend un bouquin, alors je peux me planter sur les chiffres, mais c'est l'ordre d'idées que j'ai en tête. On me corrigera sans aucun problème si je dis n'importe quoi, mais ça permet quand même à l'éditeur d'économiser 50% de la marge que normalement il observe. Hein, faut peut-être pas l'oublier, ça. Alors,
oui, mais alors après, il va te dire, moi c'est vrai, c'est une question, ça. Et pourtant, le bouquin, que tu l'achètes en librairie ou que tu l'achètes en crowdfunding, il te coûte quand même 50 euros chez
BBE. Exactement, exactement. Et c'est beaucoup plus cher que l'équivalent... Enfin, c'est beaucoup plus cher, non. C'est plus cher que l'équivalent en anglais.
Ah, largement. Mais là, on peut te dire, oui, mais bon, alors d'accord, vous payez comme en boutique, mais en boutique, vous n'avez pas les goodies propres au crowdfunding. Et ça pose un autre problème. Goodies, ça veut dire que du coup, le crowdfunding devient de la vente forcée.
Ouais, bon, on va peut-être pas passer la soirée là-dessus. Je laisse nos auditeurs se faire leur idée. Moi, j'avoue que ça me... je vous dis...
Ça laisse perplexe. Ouais.
Ça laisse perplexe, ça me laisse un peu navré, ça me laisse un peu agacé, mais c'est vraiment pas contre les gens qui pratiquent, enfin, qui font ça. C'est les décisions qui me paraissent un peu navrantes. Maintenant, je suis pas dans leur trésorerie, je ne suis pas dans leur fonctionnement. Il est bien possible qu'il y ait un défaut de communication quelque part et qu'ils ne nous aient pas expliqué la façon dont ils fonctionnent exactement. Et que, en tant qu'eux, un petit peu, mais aussi, même si on commence à savoir un certain nombre de choses sur le sujet, on se plante complètement et que notre colère, elle soit mal dirigée. Ça, c'est très, très possible parce qu'il y a quand même beaucoup de colère rôliste qui, c'est on nous prend pour des vaches à lait. Non, moi, je ne suis pas du tout dans ce point de vue-là. Je ne pense pas que l'éditeur soit en train de nous arnaquer. Je pense juste que ce n'est pas nécessaire d'en arriver là.
Le rôliste est faible.
Ah ouais, mais enfin bon.
Ouais, non, mais comme tout passionné. T'es passionné, on te vend des trucs qui te font rêver et qui t'intéressent. Et voilà, je veux dire, c'est le principe du capitalisme. Hein, c'est de créer un besoin là où il n'y en a pas et après de te le vendre, quoi.
Un autre truc dont vous n'avez pas besoin et qui est aussi en crowdfunding et qui est aussi lié à Donjon en ce moment, c'est Dungeon World aussi.
Ah oui, par contre, moi je l'ai backé, Dungeon World. Parce que c'est vraiment un jeu qui m'intéresse et qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus anecdotique, qui, lui, pour le coup, a sans doute plus besoin d'un petit coup de pouce pour être édité que Donjon Dragon, quoi.
Ok.
Donc, on pourrait avoir le truc, pour certains qui vont acheter toute la panoplie pour qu'elle aille sur leurs étagères sans jamais y jouer. Et c'est vrai que Dungeon World, je pense que, pour le coup, ça, assez facilement, on peut essayer de se faire une petite partie, etc. Puis de voir, bon, après, si on accroche ou pas, ou si on s'interroge sur ce genre de
Eh
pratique.
ben écoute, Dungeon World, c'est parfait, ça va nous permettre de faire la transition pour le sujet du jour. Écoute, d'abord je cite Black Pharaoh qui nous parle sur le chat, le nouveau chat de la page directe des voix d'Altaride, que j'ai mis en place aujourd'hui et qui fonctionne au moins pour lui, donc c'est formidable. Il nous dit, ouais, bof, argument, ça attire de nouveaux joueurs, moyen. Surtout, c'est qu'ils ne veulent plus prendre de risques. Xavier a raison, c'est devenu de
Oui.
la prévente plus de la pub. Voilà. Donc on n'est pas les seuls à penser ça.
Et Julien, si tu permets tu
Je
permets
t'en
de
prie,
répondre à ça.
vas-y, vas-y, je t'en prie.
Je pense qu'en fait, à court terme, en fait, c'est une vision à court terme qu'ont les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, on a des trésoreries, mais pourquoi prendre un risque? Puisqu'en fait, on va se créer, grâce au crowdfunding, on va se créer une trésorerie avant même de prendre des risques. Donc ça, c'est la vision à court terme, qui est une vision valable. Mais à mon avis, la vision à long terme, enfin, à mon avis, ça manque de vision à long terme. Parce que typiquement, Donjons et Dragons, c'est ce qui peut faire rentrer les gens dans une boutique. Je
Absolument.
parle des vieux rôlistes qui n'ont pas forcément continué le hobby, ce genre de choses, et qui peuvent aller voir d'autres jeux de rôle à côté et peut-être s'intéresser à des jeux de rôle moins connus. Sauf que là, du coup, en passant par le crowdfunding, bah déjà les boutiques, à mon avis, elles s'y retrouvent pas, puisque du coup, c'est direct. Comme tu le disais tout à l'heure, ça va directement de l'éditeur au particulier. Et surtout, en fait, ça truste un peu les petits éditeurs, ce genre de choses qui font du crowdfunding en même temps. C'est-à-dire que quand on voit, pour revenir sur Dungeon World, auquel je souhaite énormément de succès, quand on voit les chiffres de Dungeon World et les chiffres, non pas de 1, mais de 2 éditions de Donjons et Dragons,
Oui.
bah, enfin, c'est mon point de vue à moi, hein. Moi, je suis beaucoup plus porté sur Dungeon World, mais je trouve ça un peu. Je me demande si vraiment tous les gens qui vont acheter Donjons et Dragons vont y jouer ou si c'est vraiment la plupart des collectionneurs, quoi.
Ah bah, c'est la problématique du crowdfunding de luxe, entre guillemets, qu'on a aujourd'hui, hein. On en discutait ce week-end au Caves Alliés avec diverses personnes qui étaient présentes. Notamment, on parlait de l'opportunité des éditions collector. Parce que c'est un peu à ça qu'on arrive, hein. Et il me disait, oui, mais alors dans un financement participatif, c'est hyper important d'avoir une édition collector, parce que si tu n'en as pas, tu perds des clients. Alors que si tu en as, tu vas attirer des gens qui ne vont pas prendre l'édition collector, mais qui vont prendre le reste. Donc ce côté collectionneur est hyper effectivement important, hein.
Bah, je pense que je suis assez d'accord parce que tu vois, enfin, moi qui fais depuis pas mal de temps du crowdfunding en passant par Kickstarter quand il n'y avait pas la pléthore de plateformes qui existent aujourd'hui, j'avais vraiment dans l'idée de me dire, moi en tant que consommateur, en tant que justement, je ne suis pas un consommateur, je vais aider un projet. Là, quand c'est un projet comme Héros et Dragons ou Dragon 5e édition, autant l'acheter en boutique quoi après. Parce que pourquoi prendre un risque nous en tant que consommateurs? Parce que là, on n'est plus du tout un projet, quoi. On est vraiment consommateurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est de la prévente, hein, ce genre de choses. Donc pourquoi prendre ce risque?
Prendre ce risque, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous livrer véritablement, quoi.
C'est ça.
Il nous dit on va rajouter des trucs, mais quoi? Bah, on n'en sait rien. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je suis le même principe. Peut-être que c'est des éditions-là, parce que je suis fan de Donjons et Dragons, tout le monde le sait, je les achèterai peut-être, mais je vais attendre de voir ce qu'ils prennent avant de les acheter. Je vais pas les acheter sur le crédit de leur bonne gueule, quoi.
Et puis on perd.
On aura le menu et compagnie, mais le sommaire. Mais bon, tout, voilà, sommaire, c'est pas le con, c'est pas le détail précis de ce qu'on va avoir à l'intérieur.
Et ça, sur un petit jeu où on n'est pas sur un petit jeu, ça c'est pas gênant parce que il y a le côté je vais aider un éditeur à sortir un jeu, genre de choses. Mais là, franchement, non. Non, le jeu va sortir, on le sait tous. Bah, autant attendre le produit fini pour voir est-ce que c'est vraiment intéressant.
En fait, il faudrait prendre les éditeurs à leur propre jeu et voir ce que ça donne si personne ne back. Sauf que tu as toujours la fanbase qui n'était pas anglophone et qui croit à la panacée en se disant « Chouette, ça fait 2 ans que je joue à Donjons & Dragons 5, je vais enfin pouvoir, merci BBE. » quoi.
Mais on a la réponse, hein, Xavier. Tu prends... alors, c'était Agathe aussi, je crois. Hein. Tu prends Vampire Requiem. Premier crowdfunding échoué. Quelques mois plus tard, deuxième crowdfunding réussi pour la traduction du jeu. Voilà. Donc, bah, globalement...
Il y a eu un mieux entre les deux ou ils ont juste changé les goodies?
Alors, il y a eu un mieux, c'est que c'était moins cher.
Ouais, alors,
c'est que c'était moins cher, c'est qu'ils ont remobilisé la population, c'est qu'ils ont fait une meilleure com, et c'est que, je crois, ils ont fait un produit qui était moins luxueux. Hein, je sais plus, ça, Callisto, tu te souviens ou...
Non, non.
Ok, bon.
Bah, pareil, j'ai un VO, machin, puis Mary William, Burberk. Ça, c'est dit.
Voilà, ça, c'est dit.
Ah, ça vient du cœur, hein. On sent que...
On sent que j'ai des bouquins rouges qui brillent à vendre.
On sent que c'est expressif, en tout cas.
Bon, si Benoît avait pu être parmi nous ce soir, il te dirait que Requiem est très intéressant, apporte des choses intéressantes sur l'interprétation du vampire, etc. etc.